Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents de bonne heure à ce dernier jour déjà des Imaginales 2017 avec une première rencontre ce matin nous fait beaucoup plaisir puisqu'on retrouve Pierre Pelot qui n'était pas venu nous voir depuis quelques années et qu'on retrouve avec un grand plaisir. C'est de Dylan Pelot dont on va parler à travers l'exposition qui vous est proposée en ce moment à Épinal au Cinéma Palace, l'exposition sur les grands succès du cinéma introuvable, et puis également parce que les éditions Bragelonne viennent de publier Les Bracasses, qui est un roman signé Dylan Pelot, et donc on va évidemment vous parler de tout ça en compagnie de Gérard Viry-Babel et de Pierre Pelot. Je pense qu'on va commencer peut-être par l'exposition et voir un petit peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément le travail de Dylan, comment tout ça s'est agencé. Qu'est-ce que c'est, Gérard Viry-Babel, les grands succès du cinéma introuvable?
Allô? Les grands succès du cinéma introuvable, c'est toute une série d'affiches, de films. C'est surtout une méta-histoire du cinéma, on pourrait dire.
C'est le cinéma d'un monde parallèle, pour reprendre des thématiques.
C'est un petit peu ça. Et Dylan, depuis entre, on va dire, 2000 et 2013, avait conçu ce projet, c'est-à-dire d'inventer des films, inventer une histoire du cinéma parallèle, des réalisateurs, des acteurs, des techniciens, des boîtes de production, de distribution et tout. Et avait fait des fausses affiches, alors qui étaient soit des parodies de vraies affiches, soit des créations complètes, souvent parties d'un mauvais jeu de mots. Et oui, enfin, mauvais dans ma bouche, c'est bon. Hein.
Ce sont les meilleurs, de toute façon.
Voilà, exactement. Donc, ce projet, ça a eu plusieurs noms. Le premier était s'appelait l'encyclopédie du film Z introuvable.
Parce que ce qu'il faut peut-être préciser aussi, c'est que ce ne sont pas des chefs-d'œuvre du cinéma, tel qu'on peut l'imaginer.
Alors, c'est pas que des,
c'est pas des films à Oscar, quoi.
C'est pas que des séries Z. Il y a quand même, il y a du film d'horreur Z décalé, sans sous, etc. Mais il y a aussi du Maigret, il y a aussi du Tarzan.
C'est vrai.
Il y a aussi de la grosse production, enfin, censément, on va dire.
Avec Tarzan, j'y repense parce qu'on parlait des jeux de mots.
Tarzan et sa campagne.
Avec Jolie Vestmoer, c'est ça?
Jolie Vestmoer, voilà. Dans le genre de jeu de mots.
Et, j'ai mis du temps à le trouver, celui-là.
Oui. Et donc, ce travail a été fait, c'est vraiment un travail de collaboration. Bon, c'était le projet que Dylan portait. Mais il a travaillé avec beaucoup de ses copains, en particulier artistes, qui lui faisaient un bout de décor, qui lui faisaient une maquette, qui lui faisaient un masque, qui lui faisaient une arme, par exemple, en papier mâché, ou des trucs comme ça. Et donc, on a été beaucoup à participer, y compris et surtout en tant qu'acteur, puisqu'il nous prenait en photo pour les affiches. Et quand il est décédé, il venait de commencer à prépublier son travail dans le journal Fluide Glacial. Il avait publié 6 ou 7 articles dessus, plus 2-3 autres dans les hors-séries.
Qui étaient présentés vraiment comme des fiches
Alors, qui étaient présentés sous forme en fait, c'était des jaquettes de DVD, et avec une petite fiche derrière. Et c'était la formule le DVD au sein duquel vous ne trouverez jamais le...
C'était mieux que ça, mais ouais. Excuse-moi, mais je me souviens plus non plus, mais c'était drôle, quoi. Enfin, était drôle de toute façon, mais
ouais. faut vraiment lire tout, hein. Faut préciser que si vous allez voir l'exposition et que vous êtes face aux affiches, lisez vraiment tout, même les petits caractères, parce qu'il y a des vannes de haut en bas et de droite à gauche. Et quand on lit également le livre, on repère.
Ah ben ça va des castings au titre.
Oui, voilà, c'est ça.
Tout, quoi.
Il y a vraiment tout un travail absolument
fait feu de tout
magnifique.
Bois.
Je vous présente Burt Lancastre, alias Pierre Pelot.
Pour le film L'île du docteur Morteau. Voilà. C'est quand même grand, quoi.
Cinéma charcutier, grand genre oublié.
Mais Pierre... il y a encore un autre acteur en face de nous.
Ben oui, on a Daniel, qui lui était plus dans la pizza.
Oui.
Mais vous verrez, pour les habitués des Imaginales, vous trouverez aussi un casting assez intéressant.
Il avait trouvé le moyen d'engager des vrais comédiens aussi. Il y a quand même Benex qui a fait des photos.
Benex, il y a une magnifique affiche pour un film qui s'appelle Machine.
La machine à voyager dans le temps. C'est ça. Avec Jean-Jacques Benex, Marc Caro et
Sarah Doak.
Sarah Doak et
Pierre Bordage.
Bordage, voilà, je cherchais le nom.
Donc je vous conseille
sur la même affiche.
Je vous conseille la combinaison rouge de Pierre, qui est un grand moment à elle seule.
C'est un bon exemple cette affiche puisque donc il les a pris en photo ici à Épinal. Et ensuite, donc il les a détourés sur son ordinateur. Et puis les décors, ce sont deux pour la navette, donc pour la machine en question. Ce sont deux maquettes qui ont été faites par un de ses copains architectes. La navette, quand elle est en entier, quand on la voit voyager donc dans le corps humain, elle est haute comme ça. Elle était faite donc tout en bois, mais vraiment précisément, avec le petit détail de cockpit et tout. Voilà, on la voit ici, là, la blanche. Et les couleurs ont été refaites par Dylan par informatique. Et ces plans-là, où ils sont dans le cockpit, c'est une seconde maquette qui cette fois est plus grande, comme ça. Où il y a uniquement le cockpit. Et tous les décors derrière, c'est Dylan qui les a fait en dessin ou en composition de matière derrière. Alors c'est ça que je lui disais souvent au fur et à mesure de son travail. C'est ce qui est assez génial dans son projet, c'est qu'il a vraiment tout conçu, vraiment comme du cinéma parallèle. Il travaillait comme on travaillait dans ses films de science-fiction entre les années 50 et les années 80, c'est-à-dire avec de la composition d'images. Je citais l'autre fois, il y a ce célèbre plan des oiseaux d'Hitchcock. Le tout dernier plan est une composition de 19 images. Il y a de la prise de vue réelle, il y a du dessin, il y a de la maquette, il y a de tout. Et donc tout ça est composé à la Truca. Mais ce que faisait Dylan pour son travail, c'est exactement la même manière de travailler. Et avec, en plus, il savait se... Ça louait les talents de d'autres artistes et en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'un tel faisait telle ou telle chose. Par exemple, l'architecte, il lui a donné juste trois ou quatre indications. Il dit voilà ce qu'il doit y avoir dedans. Après, t'es libre. Et tous ceux qui travaillaient avec lui travaillaient vraiment en symbiose sur son projet, y compris les acteurs. Moi, par exemple, quand le premier film pour lequel il m'a demandé de jouer, c'était une parodie d'un film avec Jeff Goldblum. C'est l'histoire d'un. Alors, là, c'était l'histoire d'un détective insomniaque. Donc, je vais jouer un espèce de lieutenant Colombo insomniaque. Alors, j'avais des poches comme ça et tout. Et puis, entre deux séances photo, je regarde, il avait un paquet de storyboard comme ça pour chaque film où il avait chaque photo qu'il voulait faire parce qu'il faisait l'affiche plus ce qu'on appelle les photos d'exploitation de cinéma, ce qu'on voyait avant dans les salles. Il faisait uniquement ça. Et donc il avait ses petits dessins, ses petits croquis pour savoir comment on allait faire telle affiche. Et en feuilletant, je tombe sur un film qui s'appelle Frankenstein. Donc c'est un Frankenstein où le monstre est fait à partir de flan. Alors je feuillette, je me marre, je trouve ça super, je dis ah ouais, Frankenstein et tout. Puis je regarde bien tous les storyboards, je dis mais Didiche, y a pas d'Igor dans ton histoire, y a pas le personnage d'Igor. Elle me dit ah oui c'est vrai, j'y ai pas pensé. Et je dis mais tu peux pas faire un Frankenstein sans le personnage d'Igor, c'est pas possible. Elle me dit bah ouais tu veux pas le faire. Alors je suis allé dans l'atelier, j'ai farfouillé dans les costumes, j'ai trouvé une grande cape noire, des bottes, des bracelets de force. Et il y avait un casque de moto que j'ai attaché sur mon épaule. J'ai mis la cape par-dessus pour faire la bosse. J'ai mouillé mes cheveux pour faire gras. Puis j'ai dit, vas-y, prends. Alors il me disait, bah, mets-toi comme ci, mets-toi comme ça. Bah tiens, tu vas faire ça. Et puis c'est comme ça que finalement, je me suis retrouvé en Igor dans le Frankenstein. Voilà, ça fonctionnait comme ça. Alors tous les costumes, tout le monde a vraiment... Tout son entourage a participé d'une manière ou d'une autre. Et c'était vraiment un projet vraiment passionnant, quoi. Alors quand on a fait le livre, alors on n'a pas pu mettre toutes les affiches, ben, ça par contre il a fallu trouver le moyen d'en faire un livre abordable parce que c'était vraiment une masse de documents vraiment trop importantes pour une maison d'édition comme Flux Glacial. Donc on a trouvé, il fallait que je trouve le bon angle. Alors, j'ai fait plusieurs propositions à Pello. Il y a le Fred Touron aussi qui a beaucoup travaillé sur la fabrication du livre, qui m'a beaucoup aidé. J'avais soumis à Pello l'idée de rajouter deux trois petites choses auxquelles il n'avait pas pensé, c'est-à-dire qu'il y avait rien autour de, en dehors de ces photos d'exploitation et des affiches. Et bien sûr des textes, puisqu'il a raconté toutes les histoires de chaque film. Je me suis dit, il faudrait quand même qu'on ancre un petit peu ça, un peu plus dans la réalité. Et donc, d'après ces visuels, en reprenant les visuels Photoshop de Dylan, j'ai recréé des fausses couvertures de magazines de cinéma, selon l'époque dont parlait le film. Et je réutilisais, il faisait des fausses interviews aussi, dans son truc. Donc j'ai sorti de ces textes les fausses interviews, et que j'ai intégré dans des magazines d'époque, par exemple Tarzan. J'ai repris Ciné Miroir, pour ceux qui sont un peu cinéphiles, qui est un vieux magazine des années 30-40. Irma saura me dire peut-être. Et donc j'ai repris toute la charte graphique de ces Ciné Miroir. J'ai refait une couverture et j'ai refait l'article dans la typo d'époque. Pour donner l'impression de réel. Je suis aussi allé prendre des photos dans la cinémathèque qui n'existe plus maintenant, le conservatoire de l'image à Nancy. Donc j'ai pris des photos de vieilles bobines, de choses comme ça. Et tout dans l'esprit de Dylan, puisque les affiches, quand il les a faites, moi quand je l'ai rencontré la première fois, c'était en 2000. Je rentrais chez moi et je vois un grand gaillard assis au bureau de mon père. Je lui dis bonjour, vous êtes qui? Je lui dis je suis Dylan Pello. Alors il m'explique son projet. En fait, il était en train de scanner des bouquins d'affiches de cinéma pour pouvoir s'inspirer des époques, etc. Donc il faisait vraiment en plus une recherche graphique sur chaque truc. Donc, c'était un vrai boulot.
D'où venait cette passion pour le cinéma chez Dylan? C'est de famille? Parce que je crois savoir que tu es toi aussi, Pierre, un grand consommateur de films.
Oui, bah sûrement, oui, il a trempé un peu dedans depuis tout petit, quoi, donc oui, ouais. C'est dans les gènes.
Tu as des souvenirs, toi, justement, de la préparation de l'île du docteur Morteau?
De pas que celle-là, il y a eu des séances photos à la maison qui étaient quand même grandioses, quoi, avec les essais de costumes et de maquillage et tout ça, oui. Il y a eu des grands moments, bien sûr, et ça a duré. Il a mis cinq, six ans à faire ce. Non, mais à faire les photos, tout ça. Sinon, ouais, c'était un boulot de fou, quoi. Mais il était fou, un peu. Et dans ça, le bon sens du terme, évidemment.
Gros bosseur, d'ailleurs. Hein,
ouais, ouais. Mine de rien, voilà, on aurait pu imaginer qu'il n'en secouait pas une, mais non. Il en secouait deux, même. Et puis,
ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il a su entraîner tous ses copains, toutes ses connaissances.
Ça a toujours été le cas, ça. Depuis tout petit, moi, je le vois encore une fois à la maison, ça a commencé là, quoi. Il était haut comme quatre pommes, mais déjà, il y avait une bande de mômes qui le suivaient, quoi. Il faisait les premiers essais, les premiers courts-métrages qu'il a tournés avec des caméras qui venaient du lycée, de l'école et tout ça. Fallait voir quand même les premiers maquillages qu'il a fait subir à ses copains, c'était hallucinant, parce que faire des masques en terre glaise, avec des potes qui avaient un masque de terre glaise toute la journée et qui attendaient le moment où on allait prendre une photo ou tourner un truc, il y a eu ça, quoi. Les premiers courts-mètres qu'il a fait, le court-métrage de la nuit des nains de jardin, ça a été grandiose. Moi, j'ai des souvenirs formidables de ça, parce que tout le monde participait, évidemment.
Alors, faut qu'on en dise un mot de ce court-métrage, parce que la particularité de ces grands succès du cinéma introuvable, c'est qu'ils sont vraiment introuvables pour le coup, sauf un.
Alors ça, c'est encore une fois ma faute, hein, toujours avec l'assentiment de Pierre et Irma. J'avais souvent dit, mais pourquoi tu... Alors, il avait fait une affiche, c'est Termina Nain, donc pour Terminator, mais avec un nain de jardin. Donc un nain de jardin cyborg, quoi. Et je lui dis, mais pourquoi t'as pas intégré le film La nuit de l'invasion des nains de jardin, qu'il avait fait en 97? Et il me dit, mais non, mais ça, je peux pas le mettre dedans, c'est un vrai film, il existe. Tu vois, c'est un vrai film. C'est une vraie bande-annonce d'un film qui n'existe pas.
C'est un vrai court-métrage.
Voilà, un vrai court-métrage, ça c'est sûr. Et je lui dis, surtout, c'est dans la charte graphique de ton truc, et puis c'est un petit peu le maître étalon de son travail. Ouais, mais non, tu comprends. Bon. Et en fait, quand j'ai dû faire le bouquin, j'ai dit, non, faut le réintégrer, et donc je l'ai réintégré au projet. Alors ce film-là, il l'a fait en 96-17 et il a été montré pour la première fois à Gérard May.
Moi, je sais pas. Puis en plus, je suis fâché avec les dates, moi, donc je saurais pas dire plus. Toi, tu sais tout ça, mais moi, je sais plus.
Ouais. Non, moi, ça marche moi.
Ça a été effectivement montré à Gérard May. Il a eu plusieurs prix. Il a eu un prix en Belgique aussi, à un festival quelconque. Et puis, il y a eu quand même, là, c'est effectivement une bande-annonce. Enfin, c'est présenté comme une bande-annonce de film. Donc, ça, c'est le coup de génie du truc, d'ailleurs, d'avoir fait ça sous cette forme-là. Avec une voix off.
En anglais,
dite par Prévost quand même, qui avait accepté de faire le truc, et c'est à tomber quoi. Ça dure 8 minutes, mais ça vaut le coup. Ouais. Donc tous les personnages, l'animation, tout ça, ça a été fait à la maison aussi quoi.
Une fois en artisanal, comme on le faisait.
Moi j'ai des souvenirs absolument terribles et formidables de nuits complètes à faire les maisons de la ville. Qui doit être détruite par les nains de jardin qui sont devenus des géants.
Par le nain de jardin géant.
Voilà. Et donc il fallait faire une ville complète avec cinéma, magasin, piscine, machin, tout. Et donc
Godzilla.
Ça se passait dans le sous-sol. Et il y avait 3 ou 4 gugus qui travaillaient. Mais à longueur de nuit, ils faisaient des trucs comme ça. Et on croyait qu'ils travaillaient pas.
Alors c'est pas les nains, mais les premiers courts-métrages dont tu parlais tout à l'heure. Et sa cinéphilie, tout ça est montré dans l'autre livre, son roman.
Alors venons-y.
Les Bracasses. Bah, Les Bracasses, c'est vraiment un récit autobiographique avec en parallèle une histoire de la fiction fantastique, qui est une histoire de sorcier vosgien. Mais la partie autobiographique est rigoureusement exacte, à part les noms qui ont été changés, quelques situations. Et justement, il raconte comment lui est venue sa passion pour le cinéma. D'abord, pas forcément par son père, mais plutôt par sa mère, qui est une fan de vieux cinéma français, américain, entre autres. Et puis aussi, on est quand même dans les années 80, il a 16 ans. Et par le vidéoclub, donc qui pour ma génération et celle de Dylan était vraiment le truc hyper important. Et puis son premier court métrage, c'est L'homme citrouille. Alors je sais plus quel est le titre exact, avec du vrai maquillage en latex, toute la création de son court-métrage faite exactement dans les règles. Donc il apprenait en regardant les films, en lisant les Mad Movies, tous ces trucs-là. Alors tout ça est raconté vraiment bien, et puis vraiment justement, ce qui est très drôle, c'est que moi je n'ai pas du tout vécu, enfin j'ai pas vécu cette période-là avec lui, moi je l'ai rencontré réellement plus tard, même si à cette époque-là j'ai déjà tourné dans un chef-d'œuvre qui s'appelait La Mission de Michel Guillet, une histoire de Dylan scénarisée par Pierre, qui est un réalisateur lorrain, qui est un ami commun de mes parents et de Pierre, avait tourné pour France 3, une espèce de Mad Max avec des enfants, et donc j'étais un acteur. Et donc j'ai croisé Dylan pendant les années, en 86-87, j'ai croisé Dylan pendant 2 mois de tournage sans savoir qu'on allait devenir copains 25 ans plus tard, quoi. Mais donc, ce qu'il raconte là, je sais que c'est vrai, puisque c'est des anecdotes qu'il m'a racontées, mais 100 fois. Et moi, en lisant le bouquin, ça m'a bouleversé, parce que j'ai l'impression d'avoir une deuxième couche, parce que ça me faisait déjà marrer au départ, mais là, ça me refaisait marrer. Et puis en plus, notre génération, c'est quelque chose... Pourquoi il arrive à fédérer autant de gens autour de lui? Mais c'est parce que il faisait. C'est-à-dire que... Quand nous, on avait une idée, oh, ce serait bien de faire ci, ce serait bien de faire ça, oui. Ben, les mecs comme Dylan, lui, disent, ben non, on va le faire. Oui. C'est d'ailleurs comme ça qu'est né le
cyclopédie. Ça me fait songer à une... Il est donc entré à l'école de l'image à Épinal, jeune, très jeune même d'ailleurs, et il a quand même réussi à investir toute l'école. et à faire participer toute l'école dans des projets de court-métrage justement totalement dingues. Il avait même fait une pour un de ses courts-métrages, il avait besoin à tout prix d'une canette de bière géante dans le décor, quoi. Donc on avait trouvé une espèce de d'une vieille caravane qu'on avait amené jusque là, et il avait traficoté la caravane pour en faire une cadette, mais superbe, quoi, avec des plaques d'aluminium et tout. Il avait, toute l'école avait participé, quoi. La canette était dans la cour de l'école, on voyait que ça, quoi. Et tout le monde suivait, quoi. Depuis toujours, ça, c'était.
Le retour du grand tour, ça peut convaincre.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ça s'appelle le charisme.
Bah, ça s'appelle, je sais pas trop comment, mais ça, en tout cas, il y a du résultat, quoi.
D'où vient justement ce texte qui vient de sortir, hein, chez Bragelonne, Les Bracasses?
Eh bien, c'est alors le début, je sais pas, c'est peut-être plus que moi sur le.
Oh, moi, j'en
la création sais, de ce texte-là.
J'en sais peut-être un peu plus, mais j'en sais sûrement moins aussi, parce qu'un jour, il s'est pointé en disant j'ai écrit un livre. Ah bon? Et donc, moi, j'ai un rapport assez particulier avec ce bouquin, vu que il est arrivé donc à la maison, c'était pendant des vacances, notamment, de ses vacances à lui, et il avait le manuscrit sous le bras, et on a commencé à le relire un peu, tous les deux, pour corriger des trucs, quoi, comme on fait toujours quand on écrit des choses. Et puis, on a avancé petit à petit, et puis les vacances se sont terminées. Et il est reparti ici, pas ici, mais il est reparti à Nancy parce que c'était fini les vacances et tout, avec le manuscrit à moitié corrigé. Et le manuscrit en question, je n'ai jamais relu depuis. Et puis et le bouquin, je suis incapable de le lire. Donc je ne peux pas. Donc voilà. Pour moi, ça s'arrête là, mais il avait ça dans la tête. Donc je connais à peu près les deux petits tiers de cette histoire.
Voilà. Moi, en lisant ça, oui, oui, c'est ce que je disais. Il y a une dédicace à Louise Théobald qui était sa petite amie à l'époque, et qui dit, voilà, il dit d'ailleurs à Louise Théobald qui m'a donné l'envie de lui raconter une histoire. Je pense que Je crois qu'il avait eu à un moment le besoin. D'abord sur la fin, quand il a fini le gros du projet de ça, il a eu un gros moment de mou. C'est-à-dire que il me le disait d'ailleurs, tu te rends compte, Gégé, quand j'aurai fini, ça va être le vide. Parce que comme il travaillait vraiment tout le temps, enfin nous même à la fin, on a mis la main à la pâte pour le détourage des personnages et tout, parce que ces fichiers, ça devenait infernal. Ça, donc. Et il disait, mais tu te rends compte, quand ce sera fini, je crois que je vais déprimer à mort. Et à un moment, donc, il a fini les textes, les images. Et puis, il a mis un petit peu de côté. Et il s'est mis à lire. Je sais pas si tu te souviens de cette période-là. Pendant 2 ou 3 ans. Mais il bouquinait, genre, ouais. 3 bouquins par semaine.
Ou plus. Alors même. Qu'avant, c'était quand même relativement calme de ce côté-là, quoi. Ouais. Si, il lisait de la BD, des choses comme ça, mais des bouquins, c'était comme n'importe qui, un petit peu de temps à autre, quoi.
Mais il a vraiment entrepris.
Et là, il a avalé sans arrêt.
Genre tout Simenon, déjà, pour commencer.
Mais sans arrêt. Il se levait, il lisait jusqu'au coucher, et encore au coucher tard, parce qu'il continuait. Ouais. Je sais pas s'il lisait pas en dormant, même. Ouais. Il a avalé je sais pas combien de bouquins en quelque temps. Ouais. Ouais.
Et je pense que c'est une période qui est concomitante et qu'il a eu besoin aussi peut-être d'écrire ça. Mais en tout cas, c'est vraiment. Ça va peut-être être un cliché ce que je vais dire, mais moi j'ai pensé à ça. J'ai pensé en lisant le bouquin à un type que vous connaissez peut-être qui s'appelait Jean Saltel. Tu connaissais toi, Pierre? C'était un Vosgien qui était dont le métier était conteur. C'est un type que j'ai rencontré plusieurs fois avec mon père quand mon père faisait des reportages, avait fait un documentaire en particulier sur lui. Et c'était un conteur comme Vanoni, sur la partie de Vanoni conteur. Et vraiment cette espèce de tradition vosgienne du conte et en lisant ça et surtout les thématiques fantastiques qu'il a choisies. Et alors il y a un héritage de Pierre, c'est évident dans la manière, dans la construction de l'histoire. Mais il y a surtout, je pense qu'il y a quelque chose avec les Vosgiens sur le fait sur cette espèce de volonté ou de capacité à raconter une histoire. Alors on pourrait dire ça de tous les écrivains, mais moi c'est ça qui m'a frappé. Et il y a surtout l'imbrication des deux grands sujets, la partie autobiographique et la partie fictionnelle fantastique, est vachement bien. Il parle de lui, etc. Puis hop, on bascule dans l'histoire fantastique, on revient et à chaque fois on est surpris de dire ah oui c'est vrai il y a ça merde et on repart dedans et c'est vraiment il y a deux bouquins en un et qui s'imbriquent absolument bien et en plus dans la partie autobiographique il raconte vraiment énormément de choses entre les soirées chez lui avec les copains, les histoires dans les bars populaires, etc. Donc son gang, les Bracasses, enfin ce qu'il raconte avec le hard rock, tout ça, plus le court-métrage derrière, tout ça c'est des petites histoires qui sont à la fois indépendantes et en même temps imbriquées. Et il y a vraiment, c'est vraiment lui. Moi je trouve personnellement, en tout cas c'est le Dylan que moi j'ai connu. Alors voilà.
Et dans le bouquin, son père est mort.
Et dans le bouquin, son père est mort. Et je disais à Pierre, quand j'ai lu le livre, j'ai dit, je te mets ma tête à couper, que t'en as au moins un qui va écrire un article en disant, oui, ça, c'est l'Oedipe de Dylan voilà. Et tout. Alors, je dis, ça, je veux bien me marrer parce que s'il y a un truc auquel je crois pas une seconde, c'est ça. Et justement, le fait que son père est mort, donc parce qu'évidemment, donc Irma, sa mère, est dedans, tous des copains, lui, sont, etc. Et le fait que son père est mort, qu'on apprend très vite au début, hein, donc comme on dit aujourd'hui, on ne spoile pas. Et le fait que son père soit mort n'a rien à voir, mais absolument rien à voir avec un quelconque Oedipe. Je pense plutôt, ce qui est évident, c'est que c'est quelque chose qui fait avancer la partie fictionnelle, en fait. C'est quelque chose qui lui permet de nourrir la partie fictionnelle du bouquin. Et peut-être qu'il voulait juste te faire un peu chier.
Non, même pas. Ça fait partie des trucs de l'écrit, quoi. Bien sûr. C'est se débarrasser d'un personnage qui risque d'être emmerdant.
Non, mais je pense aussi qu'il y a ça, justement. Je crois que c'est une manière de... S'il avait laissé le père vivant,
c'est lourdingue quoi.
Ça aurait bouffé tout le reste ouais, de son histoire, ouais. Je pense.
Et puis on n'avait pas besoin. Donc.
Non.
Voilà.
Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui d'autres choses qui sont dans les tiroirs quelque part? Est-ce qu'il y a éventuellement la possibilité, pourquoi pas, d'un deuxième tome par exemple du cinéma introuvable?
Alors, en ce qui concerne le cinéma introuvable, il y a d'ailleurs c'est prévu. Quand on a fait le livre, j'ai imposé à l'éditeur qui voulait pas. Au départ, je voulais appeler ça les grands succès du cinéma introuvable, tome 1. On avait même eu l'idée avec Lefred, c'était lui qui m'avait suggéré de reprendre son idée à lui, de dire t'as qu'à appeler Encyclopédie du cinéma introuvable, tome 14. Et puis comme ça tu fais croire que c'est un gros truc. Et donc il devait s'appeler tome 1 et parce que il était prévu en deux tomes. Et en fabriquant le livre, l'éditeur m'a dit écoute, ça c'est un livre qui va être difficile à vendre. C'est pas dit qu'on ait justement un grand succès et donc il y aura peut-être un tome unique. Donc pense-le aussi comme tome unique. Je dis OK, je vais penser en tome unique mais je veux annoncer quand même le tome 2. Elle me dit, non, annonce pas, parce que, alors, j'ai bien compris. Ça les engageait. J'ai dit, non, tu l'annonces. Mais tant pis si on le fait pas, on l'annonce. Alors, donc, je mets à la fin, le cinéma introuvable reviendra, comme on fait dans les annonces de films, etc. Et oui, donc, il y a un tome 2 possible. Il y a un tome 2, comme on dit, dans les tuyaux, mais je suis en train de réfléchir même à plusieurs déclinaisons. Hubert Froidevaux là qui est ici de Plonk et Replonk qui édite aussi une partie de son travail à Fuite Glaciale, ils ont fait des petits carnets de cartes postales que j'ai trouvé vachement bien et ça j'en ai parlé à Yann Lindingue, le rédacteur en chef de Fluide, on va voir si c'est possible de faire. si les ayants droit sont pas trop chiants. et puis autrement, j'ai relancé l'idée de, non pas de faire un tome 2, mais en fait de refondre le tome 1 dans un seul tome définitif. Ça, j'aimerais bien faire le pavé, le truc. Il va falloir qu'on trouve le moyen de faire. Puis autrement, oui, il y avait d'autres projets dans son, il y avait d'autres projets, dont moi j'ai pris connaissance en reprenant l'ordinateur. Bah, il y en a un qui s'est fait avec Baptiste, c'était le dernier tome de Victor Kipette. Alors ça, c'est dans sa partie littérature jeunesse. Et puis il y a d'autres projets inachevés, dont un qui était pas mal, qui était en train de développer sur, mais bon, je pense pas. Des fois que Pierre reprenne, je veux pas reparler du truc, donc voilà. Mais oui, il avait plein d'idées, hein, de toute façon. Puis il avait des films en préparation. Il y a une série de mini courts-métrages justement avec le personnage de Frankenstein, avec le costume qu'il avait créé pour le truc, qui s'appelait Frankentaichi. Et c'est Frankenstein qui fait du tai chi et qui se retrouve dans des situations stupides où évidemment il tombe ou alors il trébuche et tout est lent, super lent, parce que c'est Frankenstein, donc, et en plus c'est du tai chi. Et ça, c'est un projet qu'il a fait avec deux jeunes étudiants que moi j'avais d'ailleurs en cours à l'Institut de cinéma. Et ces étudiants, enfin, un des deux maintenant travaille dans le cinéma en tant que technicien, et l'autre vient de créer avec Thierry Vigneron, enfin, sont en train de créer avec Thierry Vigneron, qui est un autre copain de Dylan, qui apparaît là, d'ailleurs sur la couve en soldat, là, je sais plus où, là. Et ils ont fait une web série qui va bientôt être diffusé, je crois que l'épisode va être ou a été diffusé ici à Épinal, qui s'appelle Killer Panda contre, non.
Hier,
Atomic Panda contre Killer Coccinelle. Alors moi, je n'ai vu que des extraits, mais j'ai suivi ce projet-là un peu de loin, mais alors là, on est typiquement dans, je pense que si Dylan était là, il aurait eu une part hyper importante là-dedans. Il serait chargé d'abord de toute la partie maquillage et tout ça, mais il aurait travaillé, il aurait participé au scénario. Là, on est vraiment dans l'esprit de, on est vraiment dans la queue de la comète de ce que faisait Dylan avec ça. Ce sont des vrais héritiers de Dylan, Thierry et puis j'ai oublié son nom. Et donc c'était un de ces étudiants-là qui avait fait ce fameux Frankentaichi. Alors il y a 14 ou 15 épisodes de 2 minutes ou 1 minute. Et puis ils sont toujours en montage. Ça fait 4 ans qu'ils sont en montage. Bah, chaque fois que je vais dans le festival, je dis bah, vous pouvez pas me les filer. Je dis, ouais, mais ils sont pas finis, on n'a pas fini, machin. Donc ça fait 15 ans que c'est pas fini. Donc ça sortira un jour.
C'est l'exposition qui est en ce moment visible à Épinal. C'est une exposition itinérante, j'imagine. C'est-à-dire que régulièrement, elle est proposée au public qui peut découvrir le travail de Dylan, justement. Ou est-ce que là, c'est un peu exceptionnel parce que aussi c'est les Imaginales, parce que...
C'est parce que c'est les Imaginales, c'est parce qu'il y a le livre qui sort. Et ça nous permet de soutenir le livre qui sort. Mais aussi parce que ça fait 2 ans qu'on en parle avec les Imaginales, puisqu'on n'a jamais trouvé le moment ou l'occasion pour le faire. Bon, là, ça l'était. Et puis, alors, normalement, on a fait la dernière exposition. On en a fait 5 en tout. C'était la 6e. Et la dernière, c'était donc là où il avait son atelier, à la MJC Bazin à Nancy. Et ça devait être la dernière, donc c'était vraiment une grande expo, on avait mis le paquet, tous les costumes, les maquillages qu'on avait, et puis à la fin, j'ai rendu les maquettes à ceux qui les ont faites, et puis j'ai donné quelques affiches, donc qui sont tirées au format affiche, à 2-3 acteurs qui ont vraiment beaucoup participé au projet. J'aurais dit, voilà, si il y en a une qui vous intéresse, vous la prenez. Alors, il me restait quand même un peu de matériel, beaucoup de matériel, mais je pensais pas la refaire. Et quand on a repris cette idée de refaire l'expo ici à Épinal, ben c'est la ville d'Épinal, enfin les Imaginales qui ont refinancé un retirage de matériel. Alors cette fois-ci, ce qui est une première, c'est que là j'ai repris des pages entières du livre choisies qui nous permet d'avoir un parcours et surtout d'avoir ce qu'on n'avait jamais eu dans l'expo, c'est-à-dire que j'avais jamais mis les textes. Et les textes, j'avais tort parce que les textes sont vraiment partie intégrante du projet. Là, on a une expo, on va dire, qui est plus plate parce que là, j'ai mis aucun costume, aucun masque. Bon, c'est quand même lourd, il faut des vitrines, enfin, c'est compliqué. Mais en revanche, on a vraiment les textes et l'univers vraiment plus représentés.
Parce que moi, j'ai le souvenir d'une exposition de Dylan sous la bulle du livre il y a quelques années pendant le festival. Mais
c'était de son vivant, c'est lui qui l'a fait. C'était l'exposition où il travaillait en cours.
C'est ça.
Ouais.
Qui justement était proposé sous la bulle du livre, ce qui fait que tout le monde effectivement passait devant.
C'est l'année où il a pris en photo Caro et Benex.
Non, c'était sous la bulle. Ouais, c'était sous la bulle. Enfin, de mémoire. Hein, je me
trompe. Des statues, non ? Il y avait des statues, oui. Beaucoup. Ouais.
Il me semble.
Ah, c'est là où il y avait l'homme frite et tout ça ? L'homme pizza, oui. Non ?
Ah ben oui, mais si.
C'est encore autre chose, ouais. C'est encore une autre fois. Ouais.
Parce qu'il a repris dans le cinéma trouvable des personnages qu'il avait créés par ailleurs. L'homme frite ou l'homme pizza et tout ça, c'est des personnages qu'il avait déjà créés avant.
L'homme frite.
Et il avait fait à l'Institut de cinéma, il avait fait l'exposition de ces statues-là. Il y avait un homme pizza de 2 mètres de haut qui existe toujours, qui est en Normandie.
Si les statues dont je parle, moi, c'était des statuettes.
Ah ouais. L'abominable homme pizza de Pompéi.
Je sais pas combien il y a de frites dans l'homme frite. En polyester.
Alors, il y a une page de statistiques.
Hein. En mousse de. Je sais plus. Ouais.
Il y a un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est aussi, parce que je le vois en passant là, en feuilletant le livre, c'est qu'il a aussi. C'est un peu moqué aussi des grands labels du cinéma et du cinéma de ce genre, comme la Hammer, comme je vois René Château aussi passer. Voilà, il y avait vraiment aussi l'envie de s'inscrire dans quelque chose que les gens pouvaient reconnaître.
Oui,
et
oui, mais il y a deux types de choses. Il y a des films indépendants, seuls, comme Godzimir par exemple. Donc, un mélange de Godzilla et de Casimir. Donc ça, c'est des films seuls avec juste un petit résumé de l'histoire, comment ça s'est fait, tout ça. Et puis il y a des grands chapitres qui sont des chapitres sur une boîte de production ou sur un réalisateur en particulier où là il y a plusieurs films et l'histoire de la saga. Par exemple, ça c'est quoi ? Voilà, Godzimir. Ouais, ouais. Et la Hammer, ben oui, il a recréé tout l'univers. Alors il recrée vraiment les acteurs, les producteurs, tout quoi.
Encore une fois, il faut le redire, il faut vraiment tout lire, hein, puisqu'il y a une collection de calembours et de jeux de mots qui sont quand même à pas piquer des verres pour certains.
La guerre du fumé.
Certains, faut les relire plusieurs fois quand même pour arriver à les repérer.
Il avait même réussi à faire participer dans un de ses acteurs sa grand-mère carrément.
Pour oui, le, ah bah, j'imagine celle qu'on voit.
Pour le film Les dents de mes mères. C'est pas piquer des verres non plus. Elle était très contente.
Voilà, je pense qu'on va arriver au terme de cette rencontre. On va remercier infiniment Pierre et Irma d'être venus nous rejoindre pour évoquer le travail et la mémoire de Dylan. Vous invitez évidemment à découvrir les livres, les Bracasses qui viennent de sortir pour la partie plus romanesque, même si on a compris qu'il n'y avait pas que forcément de la fiction à l'intérieur de ce livre. Les grands succès du cinéma introuvable, voilà, qu'on a feuilleté un petit peu rapidement pendant cette table ronde. Et puis l'exposition, elle se prolonge hein, après les Imaginales. Elle
je crois que c'est jusqu'au 5, hein. C'est 5 juin, c'est ça ?
Voilà. Au cinéma Palace d'Épinal.
De quelle année ?
2042.
Normal. Merci beaucoup, merci d'être venu également. Voilà, c'était un grand plaisir de retrouver Pierre aux Imaginales. Merci beaucoup.
Merci.